Le département d'études françaises de l'Université de Toronto est fier d'annoncer son tout premier gala d'excellence. Un événement visant à reconnaître les réalisations exceptionnelles des étudiants, du corps professoral et du personnel. Cette soirée de célébration se tiendra le vendredi 25 avril à Father Maiden Hall, St. Michael College, de 18h30 à 21h. Au programme, remise de prix, discours inspirants et opportunités de réseautage. Gala d'excellence du département d'études françaises, Université de Toronto. 25 avril 2025, au Father Maiden Hall, St. Michael College, 100 St. Joseph Street, à Toronto. Plus de détails sur popourrichaud.com. Premier gala d'excellence du département d'études françaises sur notre campus, Université de Toronto. Un événement qui met en lumière l'impact de l'éducation, de la recherche et de l'engagement communautaire et célèbre les contributions exceptionnelles de nos étudiants, enseignants et membres du personnel. Alors, soyez-y! Bataille de la crête de Vimy, du 9 au 12 avril 1917. Malgré les décennies qui se sont écoulées depuis la bataille de la crête de Vimy, les efforts colossaux des Canadiens qui ont participé à cette importante bataille de la Première Guerre mondiale demeurent gravés à jamais dans la mémoire collective du pays. Certains disent même que le Canada est arrivé à maturité en ces difficiles jours d'avril 1917. Le dimanche 13 avril 2025, nous commémorons le 108e anniversaire de la bataille de Vimy. Le comité Vimy-Toronto vous donne rendez-vous dimanche 13 avril à 10h55 au Cénotaphe de l'ancien hôtel de ville de Toronto. Le comité Vimy-Toronto 2025, avec ses institutions et associations, a à cœur de continuer cette commémoration afin que vive le devoir de mémoire, l'éducation, la conscience morale et notre engagement citoyen dans la lutte pour la paix dans l'avenir. Les citoyens français, aux côtés de leurs amis canadiens, tiennent à exprimer leur reconnaissance et leur respect aux combattants canadiens qui ont combattu sur les terres de France et d'Europe pour défendre notre liberté. Nous comptons sur votre participation et votre coopération pour cette commémoration 2025. Rendez-vous donc dimanche 13 avril à 10h55 au Cénotaphe de l'ancien hôtel de ville de Toronto, pour commémorer le 108e anniversaire de la bataille de Vimy. Pour plus d'infos, M. Gérard Poupé-Hill, comité Vimy-Toronto, joignable à 647-725-5236. Ou visitez notre site web popourrichaud.com. Ne manquez pas notre édition spéciale, la bataille de la crête de Vimy, un lieu, une histoire, le dimanche 6 avril, sur CUT 89,5 FM, en partenariat avec le comité Vimy-Toronto 2025. Bataille de la crête de Vimy, non plus jamais de guerre, non plus jamais.
There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at ciut.fm or live from our studio. Popourrichaud targets student listeners who want to explore and travel through the francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands. and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target, Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. In partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes en guerre. Nous serons bientôt annexés. À quoi ça sert, la francophonie?
Oh merde. Oh mon Dieu. Viens voir.
L'état d'urgence est déclaré.
Françaises, Français, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir en raison de la situation internationale et de ses conséquences pour notre pays et pour l'Europe, et cela après plusieurs semaines d'action diplomatique. Vous êtes en effet, je le sais, légitimement inquiets devant les événements historiques en cours qui bouleversent l'ordre mondial. La guerre en Ukraine, qui a entraîné près d'1 million de morts et de blessés, continue avec la même intensité. Les États-Unis d'Amérique, notre allié, ont changé leur position sur cette guerre, soutiennent moins l'Ukraine et laissent planer le doute sur la suite. Dans le même temps, les mêmes États-Unis d'Amérique entendent imposer des tarifs douaniers aux produits venant d'Europe. Enfin, le monde continue d'être sans cesse plus brutal et la menace terroriste ne faiblit pas. Au total, notre prospérité et notre sécurité sont devenues plus incertaines, et il faut bien le dire, nous rentrons dans une nouvelle ère.
La planète Terre avant l'embrasement général. C'est l'inquiétude la plus communément partagée. La peur de la guerre, un Moyen-Orient chaotique, l'escalade de la terreur en Corée du Nord, un face-à-face angoissant entre la Russie et l'Europe, les actes terroristes toujours plus nombreux et meurtriers qui défient le monde occidental. Jamais depuis la fin de la guerre froide, on n'avait eu le sentiment d'un monde aussi instable.
Géographe français, Onésime Reclus invente le terme francophonie en 1880 pour désigner les personnes et instances utilisant le français dans le monde. Aujourd'hui, le français est la cinquième langue parlée sur la planète, avec 274 millions de locuteurs. Plus de la moitié vit en Afrique. En Afrique du Nord, l'Algérie est la première communauté francophone, avec plus de 11 millions de personnes sachant lire et écrire le français. Par rapport à la population totale du pays, les Tunisiens distancent les Marocains. En revanche, c'est au Maroc que les locuteurs sont les plus nombreux. En Afrique subsaharienne, les trois pays qui regroupent le plus grand nombre de personnes parlant le français sont la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Dans les pays de l'océan Indien, Madagascar comptabilise le plus grand nombre de francophones, mais c'est aux Seychelles et à l'île Maurice que la langue française reste la plus présente. Au Moyen-Orient, le Liban devance l'Égypte. En Europe centrale et orientale, la Roumanie, puis la Pologne et la Moldavie comportent le plus grand nombre de francophones. En Amérique du Nord, le Québec en recense plus de 7 millions, soit plus de 4 habitants sur 5. Dans la Caraïbe, Haïti demeure le premier pays francophone. L'Asie, avec des chiffres très faibles, reste stable. Aujourd'hui, 125 millions de personnes dans le monde étudient le français avec 900 000 professeurs. C'est la deuxième langue étrangère apprise après l'anglais, l'une des deux seules langues parlées et enseignées sur tous les continents.
Pourquoi célèbre-t-on la francophonie? Pourquoi ce désir de célébrer? Certainement pas parce que c'est l'occasion de reconnaître à quel point la langue est un puissant moteur culturel qui engage le dialogue entre les cultures et favorise la cohésion sociale entre les francophones, francophiles et francophones d'adoption. Le mois de mars est le mois de la francophonie et le 20 mars, ça marque la journée internationale de la francophonie. Tout au long du mois de mars, en partenariat avec RFI TV 5 Monde à France 24, je vous invite, madame, monsieur, à me suivre avec nos invités, humoristes, artistes, du rendez-vous francophone au Canada. Et la thématique de cette année, cultive tes racines.
Bonjour mes amis, je m'appelle Zachary Richard et je vous salue de la Louisiane. Et je vous encourage de célébrer notre héritage francophone pendant ce mois de la francophonie. Ici en Amérique du Nord, de parler français n'est pas seulement un engagement envers le passé, mais surtout vers l'avenir. De parler une langue, ce n'est pas tout simplement une façon de communiquer, mais c'est aussi une façon de voir le monde. Notre héritage francophone n'est pas seulement ce riche parler, mais c'est aussi des valeurs de tolérance, d'ouverture et d'inclusion. Soyons fiers de notre héritage francophone et faisons, comme disait Senghor, de tisser cet humanisme autour de la terre. Merci beaucoup.
Le français a été la langue de la diplomatie occidentale pendant près de 200 ans. Le traité de Rastatt est le premier à être rédigé en français plutôt qu'en latin. Cela est dû au rayonnement culturel de cette langue. Depuis le XVIIe siècle, le français est considéré comme obligatoire dans la plupart des cours d'Europe. Tous les traités internationaux et les lettres entre chancelleries sont rédigés dans cette langue perçue comme très précise. En 1871, le chancelier prussien Otto von Bismarck vient de remporter la guerre franco-allemande et cherche à se rapprocher de la Russie. Il propose à son homologue russe, le prince Gortchakov, de substituer l'allemand au français dans les rapports officiels. Une demande refusée par retour de lettres rédigée en français.
Je suis la langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est pas ce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour stylisez les romans, les mots doux et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, pour créer la connivence entre auditeurs et locuteurs, parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti. J'accompagne les nobles courses de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite.
La francophonie,
c'est le livre des livres, livre des livres de pensée. Je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est à
et c'est Eric Kader qui vous souhaite une belle journée internationale de la francophonie.
Cette semaine, avec l'annonce des tarifs aux douanes, j'ai décidé de réécrire quelques chansons pour la situation et on commence par les hymnes nationaux.
Oh, c'est innocent, nous charger 5%, ils vont avoir l'air idiots quand on va leur couper hydro. Au Canada, on trouve tout ce qu'on veut.
Au heureusement que nous avons nos artistes et nos humoristes pour nous aider à passer à travers ce moment difficile. Ah, les tarifs!
L'alcool américain des sociétés, dans le fond, y'aurait juste pu nous le donner, pour pas vivre sobre les 4 prochaines années. Pas besoin de votre vin californien, on a en masse de sucre chez nous, puis en dernier recours, on a du Nicolas Lalou.
Bienvenue sur www.cut.fm. Université de Toronto, l'ingénieur du son DJ Devera, production et animation Eric Kader, avec vous jusqu'à 13h sur www.cut.fm. Et un immense merci à tous nos généreux partenaires et invités qui ont participé à notre émission spéciale du 16 mars dernier. Monsieur Taoufik Abayem, fondateur du magazine Leaders, éditeur de Transculturalisme et Francophonie, dernier livre du professeur et poète Eddy Bouraoui. Édouard Landry, auteur, compositeur, interprète franco-ontarien, qui a lancé En plein air, en exclusivité sur CUTFM, premier extrait de son prochain album, Salon des Réfugiés. Dominique Lalande, agente de promotion des projets artistiques et littéraires, Québec-Canada-France, collaboratrice de CUTFM et la fondatrice de la Communication. Nafi Leili Faigou, artiste, dramaturge, poète, metteur en scène, institutrice de grammaire française à l'Université Brock, directrice du Salon du Livre des Francophonies du Niagara, Safran, du 20 au 23 mars à Marilyn Walker School of Fine Performing Arts à Sainte-Catherine, une initiative de Sophie Franc. Et pour écouter l'intégralité de toutes nos émissions, veuillez visiter notre site web popourishow.com. Et oui, nous nous approchons vers la fin des célébrations du mois de la francophonie. Nous avons été témoins de belles initiatives partout au Canada et dans le monde. Et aujourd'hui, je veux vous partager quelques temps forts de ce mois de mars. Parmi les thématiques, débats, émissions, concerts et créations qui nous ont impressionnés et intéressés, la francophonie a-t-elle encore un sens? Quelle serait pour vous la francophonie idéale? Quelle place a la langue française à l'heure de l'intelligence artificielle? À l'heure de Donald Trump et de ses politiques qui bouleversent la planète, quelle devrait être la réponse des politiques à la française? Alors, certains pays anglophones cherchent à tout prix à adhérer à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Pourquoi le Mali, le Niger et le Burkina Faso se retirent de l'OIF? Je vous laisse entre de très bonnes mains magiques de mes collègues de TV5 Monde, RFI, France Inter. Bonne semaine de la francophonie, bon mois de la francophonie 2025. La francophonie a-t-elle encore un sens? La parole aux comédiens, danseurs, metteurs en scène, chorégraphes et directeurs de festivals à l'occasion du Festival des francophonies Les Ébrures à Limoges, l'épicentre culturel de la francophonie en France.
J'en ai aucune idée. J'ai jamais pensé à ça. Ma langue est le français. Je travaille beaucoup avec des gens du monde entier, dont certains beaucoup francophones. Donc c'est la francophonie qui m'a permis de penser aussi. Mais je ne me pose pas la question, en fait. Je ne sais pas si j'étais anglophone, ce que je pourrais dire de cela.
Ce qui nous intéresse ici, aux francophonies des lectures à la scène, c'est ouvrir à toute personne qui crée, qui pense, qui crée à partir de la langue française et des cultures françaises. Et donc c'est aussi un endroit où on mettra à l'évidence les langues, les autres langues, parce qu'on parle de francophonie, parce qu'on parle d'autres langues.
Partout où je suis allée, il y avait ça en commun. Il y avait la langue française en commun, Madagascar, même au Tchad, même voilà, en Martinique bien sûr, au Canada aussi. C'est comme des aiguilles à tricoter, quoi. Une langue commune. Après, on met les fils qui nous composent et puis on tricote quelque chose, je trouve ça super.
On est actuellement 200 millions de locuteurs du français avec une majorité d'Africains. C'est une langue qui est arrivée avec l'histoire coloniale et la violence de l'histoire coloniale. Mais je me dis qu'un siècle et demi après, on devrait se l'approprier comme une de nos langues. Et que, comme le dit Aimé Césaire, les langues, les mots sont des armes miraculeuses. Plus on en a, plus on a de monde, plus on a d'univers. Le reproche que je ferai à une certaine idée de la francophonie, c'est cette idée de centre et de périphérie. C'est cette idée de domination culturelle. On peut concevoir la langue comme un instrument de conquête et comme un instrument d'hégémonie culturelle. Alors qu'on pourrait en faire un instrument d'horizontalité, un espace de rencontre.
La francophonie, de ce qu'on a vu, c'est du partage. C'est l'échange, c'est la découverte, c'est des rencontres. C'est ce dialogue avec les autres, le dialogue avec les sociétés. C'est la richesse, ce partage-là, de toutes les richesses culturelles qui se retrouvent au niveau des francophonies. Quand on dit francophone, ça dit que le Burkina Faso, on est francophone, on parle français au Burkina Faso. Et me trouver ici à Limoges, dans le cadre des francophonies, ça se partage de culture.
C'est un réseau important. Et c'est au fait aussi ce réseau-là que nous essayons de nourrir de façon partielle. L'école a de retentissement déjà partout. Puisque lorsque des gens font des demandes pour venir en France, au Togo, au Bénin, un peu, les gens leur disent allez à Cotonou, il y a une école. Et la chose la plus étonnante aujourd'hui, c'est qu'il y a un Français, un jeune Français, qui veut venir à l'école.
Je constate que la langue française a gagné en qualité avec des étrangers. Et quand elle nous revient de loin, à savoir d'Afrique, quand elle nous revient des Caraïbes ou d'ailleurs, la langue française nous revient le plus souvent enrichie, magnifiée, creusée, approfondie, renouvelée.
malgré tout, cette francophonie qui est un espace finalement d'utilité de communication et de rencontre de plus de 250 millions d'habitants sur la planète, eh bien, elle est utile, elle est fondamentale. Mais évidemment, il faut qu'elle prenne beaucoup plus sa place dans la poétique du monde. Cette poétique qui appelle à la multiplicité, qui appelle à au bruissement et au tremblement de toutes les saveurs du monde.
C'est des lieux où il est possible de parler, où il est possible de créer. Je pense que ce sont des choses aussi dont on est de plus en plus conscient. C'est une langue infiniment riche à laquelle je suis très émotivement et profondément attachée. C'est une langue qui m'a fait grandir parce qu'entre autres, elle a permis des rencontres. Et des rencontres avec des personnes qui ont mis des mots sur le monde dans lequel on habite aujourd'hui et qui m'ont fait réfléchir. Et je pense qu'en réfléchissant, en se posant des questions, c'est comme ça qu'on grandit.
Je trouve que c'est intéressant que la francophonie puisse avoir pas seulement la langue, puisque là, justement, on a utilisé toutes ces langues, et comment elle peut côtoyer les différentes langues, comment elle peut accepter aussi les différentes langues. Et quand je parle des différentes langues, c'est-à-dire c'est le langage, mais aussi c'est le langage du corps. Et pour moi, la francophonie, elle peut être représentée aussi par le spectacle vivant et par la danse à ce niveau-là.
Le ministère de la Culture présente la 30e édition de la Semaine de la langue française et de la francophonie sur le thème « Prenez la parole ». Du 15 au 23 mars, rendez-vous en France et dans le monde entier pour célébrer le français et découvrir les richesses de la francophonie.
Bonjour tout le monde. Est-ce que vous entendez ça? Non, c'est pas juste le vent de mars qui souffle, c'est les rendez-vous de la francophonie qui arrivent chez vous. Jusqu'au 31 mars, participez à une tonne d'activités pour célébrer la culture francophone, de vos racines jusqu'à vos branches. Sur le rvf.ca, découvrez un concours qui explore les trésors et la richesse de nos expressions locales. Parce que l'union fait la force, ou comme on dit en créole, mets en pile, chaille pas lui. Il y a aussi des activités et des concours pour tous les âges, en présentiel et sur le web. Venez nourrir votre curiosité et cultiver votre amour pour la francophonie canadienne. Tout commence ici, sur rvf.ca, dès maintenant. Allez, bon rendez-vous!
Bonjour Abuja, bonjour Nigeria, nous voici une fois encore avec notre célébration de la journée de la francophonie à Growing Edges Academy, 5e édition, featuring Abuja French Spelling Bee, 2e édition. Que du boom, que du bonheur. Bonjour Abuja.
33 écoles sont au rendez-vous pour la compétition de Spelling Bee. Qui sera le meilleur gagnant? Merci.
Une seule date. Vendredi le 7 mars 2025 à Glowing Ages Academy. Le français va encore secouer la vie d'Abuja. Êtes-vous prêtes?
Venez découvrir les apprenants nigériens. Avec la langue française, ils sont formidables.
Ah oui, venez. Découvrir de l'ambiance avec des belles mélodies françaises, des danses, des poèmes, et même de théâtre. Chez nous, c'est chaud. Le français, c'est super.
Oh là là, ce sera encore une autre expérience cette année. J'aime le français.
7 mars 2025 à Glory Academy.
Parlons le français, la langue de Moïse.
Dans quel pays trouve-t-on le plus de francophones? La Côte d'Ivoire occupe la 10e place du classement avec un peu plus de 9 millions de personnes qui parlent français, ce qui représente un tiers de sa population. Suivent le Canada, le Royaume-Uni, le Cameroun et l'Italie, au coude à coude avec plus de 11 millions de locuteurs chacun. L'Allemagne les dépasse de peu. L'Afrique du Nord est bien présente avec le Maroc puis l'Algérie et leurs quelques 15 millions de francophones chacun. On passe ensuite à une toute autre échelle avec la République démocratique du Congo et ses près de 50 millions de francophones, soit la moitié de sa population. Mais c'est bien évidemment la France qui est à la première place avec plus de 60 millions de locuteurs du français.
À
À l'initiative du gouvernement du Québec, le Centre de la francophonie des Amériques a été fondé pour stimuler la création de liens entre les communautés francophones des Amériques et agir comme un moteur de développement par sa contribution à l'émergence de projets porteurs, pluriels et inclusifs. Grâce à des initiatives exclusives et gratuites, comme la Bibliothèque des Amériques, ou des projets phares, comme le Forum des jeunes ambassadeurs, le Parlement francophone des jeunes ou l'Université d'été, le Centre joue son rôle de leader en s'engageant à soutenir et mettre en mouvement une francophonie porteuse d'avenir. En plus d'agir sur le terrain, le Centre s'investit chaque jour un peu plus dans les espaces virtuels afin de multiplier les initiatives, les concours ou les occasions d'échange entre les 33 millions de francophones et de francophiles des Amériques. Depuis plus de 10 ans, le Centre travaille ainsi à la mise en œuvre d'une francophonie plurielle, solidaire et inclusive, riche de ses différences, engagée et innovante. Une francophonie faite pour les 33 millions d'individus qui la supportent dans plus de 50 pays et territoires dans les Amériques.
TV5Monde.com, c'est tout TV5Monde et bien plus encore.
Retrouvez le guide des programmes traduit en 5 langues.
Découvrez les bandes annonces de vos films.
Visionnez où vous voulez et quand vous voulez vos émissions favorites.
Restez connectés à l'information avec toute l'actualité internationale en direct, nos JT et dossiers multimédia.
Voyagez avec un site 100% Afrique.
Visitez toutes les cultures du monde.
Consultez la météo.
Interrogez notre dictionnaire.
Vibrez sur toutes les musiques du monde.
Apprenez et enseignez la langue française.
Jouez et gagnez des cadeaux avec nos quiz et nos concours.
Voyagez, découvrez, partagez. Tous les mondes se rejoignent sur tv5monde.com.
De 11h à 13h, Popourri Show sur CUT 89,5 FM, Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence.
La langue française est au cœur de l'ADN du réseau Normalisation et Francophonie. C'est pourquoi il me fait plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui pour souligner la Journée internationale de la francophonie. Le RNF représente le fait francophone de la normalisation. En effet, la promotion sur la scène internationale de la langue française est au cœur de la raison d'être du RNF. Avec nos précieux partenaires de l'espace francophone tels que l'OIF, nous travaillons au quotidien à accroître la participation des pays francophones dans l'élaboration des normes internationales qui sont d'intérêt pour nos marchés. Cette année, la secrétaire générale de la francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, a souhaité placer cette journée sous le thème de la francophonie de l'avenir, dans sa dimension de l'entrepreneuriat, du numérique et de l'environnement. Il s'agit d'enjeux d'importance qui sont en cohérence avec la mission et les valeurs du RNF, ce qui démontre une fois de plus notre importance stratégique. J'y vois d'ailleurs une opportunité pour notre organisation de participer à la construction de cette francophonie de l'avenir en contribuant à son développement économique dans une perspective de développement durable. Ensemble, portant la voix de la francophonie à travers le monde, bonne journée internationale de la francophonie.
Je suis malgache.
Je suis camerounaise.
Je suis béninoise.
Je suis burundaise.
Je suis burkinabé.
Je suis française.
Je suis congolaise.
Je suis togolaise.
Je suis haïtienne.
Je suis tchadienne.
Je suis sénégalaise.
Je suis malienne.
Je suis comorienne.
Je suis gabonaise.
Je suis rwandaise.
Je suis djiboutienne.
Toi, un parfait mélange de beauté, de couleur, un arc-en-ciel multiculturel. Et toi,
toi qui nous rassemble autour des valeurs.
Gawayena ne bien samba.
Sur une douce mélodie, on va l'offre Swahili. Où la langue de mon air au milieu de cette symphonie.
Symbole d'unité, de fraternité.
Courage de nous rendre fiers. F-R-A-N.
clairement on se ressemble. Tu as brisé nos chaînes, on a brisé les barrières. Oublié ce qui nous retient en arrière.
Française dans le monde, comment la défendre concrètement, des questions auxquelles nous allons tenter de répondre en cette semaine de la langue française et de la francophonie. Bonsoir Xavier Nord.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes commissaire principal du parcours de visite de la Cité internationale de la langue française inaugurée au mois d'octobre dernier au château de Villers-Cotterêts dans l'Aisne en France. Alors hier nous parlions ici même du lancement de ce grand festival qui va courir justement jusqu'à ce sommet qui aura lieu les 4 et 5 octobre. Alors la dernière fois que la France a été le pays hôte, c'était en 1991, il y a 33 ans. Avant de parler concrètement vraiment de la langue française, des langues françaises dans le monde, quel est selon vous l'enjeu, s'il y en avait un grand pour cet événement?
Ce sera l'occasion de réaffirmer une solidarité, celle qui rassemble les États qui se reconnaissent dans un rapport plus ou moins proche ou plus ou moins lointain, dans une référence commune à la langue française, de réaffirmer donc ce lien fondateur qui justifie l'existence de cette grande organisation internationale. Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais ce qui justifie une organisation internationale de la francophonie, c'est quand même la langue française. Même si cette organisation s'assigne pour objectif l'aide au développement, l'éducation, et puis il y a des enjeux économiques qui peuvent rassembler ces États.
En quoi, selon vous, Xavier Nord, une langue, pas forcément dans la langue française, mais en quoi une langue, ça peut être valable pour le monde hispanophone, lusophone, dont on va parler, anglophone, en quoi une langue, elle est l'un des principaux vecteurs liants entre les peuples et les cultures?
Tout simplement parce qu'une langue, c'est une certaine manière de découper la réalité, c'est une certaine manière de produire le sens, c'est une certaine manière de s'orienter dans l'opacité du monde, si vous voulez. C'est d'ailleurs un des sens du mot sens, n'est-ce pas? C'est une direction, c'est ce qui vous donne une direction.
Et un partage.
Cette manière de produire le sens, eh bien nous le partageons avec un certain nombre de peuples. La France est évidemment très loin d'en être la seule dépositaire, loin s'en faut, puisqu'il y a beaucoup plus de francophones en dehors de France qu'en France même.
Alors la francophonie, c'est un terme comme ça qui peut paraître abstrait. Vous avez coutume de le rappeler, il y a la francophonie avec le petit F et avec le grand F. Le grand F, l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie. Louise Mouchet-Kiwabo, la secrétaire générale, était hier l'invitée de Patrick Simonin. Et puis avec le petit F, c'est ce qu'on vient de dire, hein, c'est ce partage en commun à travers les continents dans le monde. 321 millions de locuteurs, c'est un chiffre souvent on vous interroge pour dire est-ce qu'il est fiable ou pas. C'est une moyenne, on pourrait dire que ça peut aller de 100 millions jusqu'à beaucoup
c'est,
plus.
Voilà, c'est un dénombrement, celui de l'Observatoire de la langue française au sein de l'OIF. Il est relativement vraisemblable. Mmh. C'est l'ensemble des parlants français qui maîtrisent cette langue et qui en font un usage fréquent. Voilà.
Et un usage quotidien, souvent. Les vecteurs de cette francophonie, n'oublions pas évidemment les enseignants, les écoles de par le monde, TV5 Monde, qui est un des opérateurs de la francophonie, et puis les instituts français, les alliances françaises. Comment ce maillage participe au quotidien, et pas seulement cette semaine, à la bonne santé de la langue française?
Eh bien, c'est un maillage qui est très fin, parce que ça permet d'irriguer un territoire qui, aujourd'hui, est un territoire largement dématérialisé, largement déterritorialisé, parce que ce qui caractérise notre modernité, c'est l'existence de grands espaces géolinguistiques qui ne sont pas nécessairement assis sur des territoires et qui existent très fortement sur Internet et qui rassemblent aujourd'hui des locuteurs qui peuvent se retrouver dans cet univers virtuel et où il est essentiel que le français garde sa place.
Alors les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Le slogan des JO organisé à Paris a beaucoup choqué Make for Sharing, alors que l'une des langues de l'olympisme, c'est le français. C'est quelque chose que vous regrettez en tant que citoyen, à titre personnel?
Bien sûr, puisque les Jeux Olympiques, dans leur forme moderne, dans leur forme contemporaine, ont été recréés par Coubertin. C'est donc une invention française, si vous voulez, et le français est quand même une des deux langues officielles des Jeux Olympiques. Et d'ailleurs, la langue qui fait référence en cas de litige.
Fait pour être partagé, on aurait pu le traduire autrement, mais en tous les cas, il y avait moyen de le faire. Alors, je lisais dans la presse certaines entrevues que vous avez données. Il y a un point que je trouve très intéressant. On dit souvent que l'avenir de la francophonie se trouve en Afrique, et donc l'essor de la langue française, pour des raisons d'abord démographiques, mais pas seulement. Vous vous dites oui, mais il y a un mais, et c'est très intéressant. Vous comparez l'espace francophone à d'autres espaces, et vous dites qu'il n'est pas structuré pareil.
Mais ce n'est pas du tout structuré de la même manière que l'espace hispanique. Hispanophone ou l'espace lusophone, parce que l'espace hispanophone, dans l'espace hispanophone, les locuteurs de langue maternelle espagnole, c'est 4 locuteurs sur 5. Hein. C'est le grand bassin latino-américain, évidemment la péninsule ibérique. Et l'espace lusophone, c'est les lusophones de langue maternelle portugaise, c'est 9 sur 10. Alors que pour l'espace francophone, les locuteurs de langue maternelle française, c'est 3 sur 10. C'est très peu, en réalité, c'est relativement peu. C'est l'Hexagone, Wallonie-Bruxelles, la Suisse romande, le Québec, bien sûr, puis quelques communautés, ça ou là. Mais ce sont donc des bassins de population très, 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 très restreints par rapport à la francosphère dans son ensemble.
Ouais, mais quand je dis intéressant,
le français, c'est une langue seconde. Ouais. Ça n'est pas nécessairement une langue maternelle.
Mais est-ce que ce chiffre n'a pas baissé? Parce que si on prend l'Algérie au Vietnam, pour celles et ceux qui ont eu la chance d'aller dans ces deux pays francophones, même si l'Algérie, rappelons-le, n'est pas membre officiellement de l'OIF, mais en tout cas francophone concrètement, c'est en perte de vitesse.
En chiffre absolu, il n'a pas baissé, il a même augmenté légèrement, mais par rapport aux grandes évolutions démographiques, effectivement, il y a un certain recul. Parce que dès lors que le français n'est pas une langue, je dirais, maternelle, elle est transmise pour l'essentiel par l'école, par les systèmes éducatifs. Et il suffit que ces systèmes éducatifs soient en difficulté ou défaillants. Il suffit que la volonté politique de promouvoir cette langue s'émousse, comme on a pu le voir, comme on peut le voir dans certains pays africains, pour que cette langue se trouve dans une situation de fragilité.
Oui, en fonction des tensions géopolitiques, notamment quand c'est la langue maternelle, on ne peut pas faire autrement, forcément, on la parle, c'est une langue vivante.
Exactement. Le français a cette particularité, parce que c'est une langue seconde, de se trouver naturellement en situation de dialogue avec un très grand nombre de langues. C'est une langue qui est confrontée naturellement à la pluralité linguistique. Mais le revers de cette situation, c'est une forme de fragilité.
C'est le revers de la médaille. Commissaire principal du parcours de visite de la Cité internationale de la langue française, on se souvient de ces belles images qu'on va revoir, notamment dans ce magnifique lieu, cette verrière avec des mots écrits en français. Comment vous, est-ce que vous allez prendre part ces prochains mois jusqu'au sommet à ce festival d'ailleurs, et puis qu'est-ce qu'on va pouvoir voir sur ce parcours d'ailleurs?
Moi, je vais tenter de contribuer à attirer des visiteurs vers cette très belle cité, vers ce parcours auquel j'ai eu un plaisir particulier à contribuer, puisque j'en ai assuré la conception avec un groupe de spécialistes au sein d'un commissariat scientifique.
Alors, j'ai oublié de le signaler d'ailleurs, effectivement, puisque vous avez un livre qu'on peut signaler peut-être.
Oui, ce qui s'intitule le livre d'une langue.
On va le voir à l'image.
Alors c'est un catalogue sans être un catalogue, c'est un ouvrage collectif en effet. C'est le parcours de visite sans être le parcours de visite. Il accompagne le parcours de visite, le commente, l'approfondit. Il a été dirigé par Barbara Cassin, qui nous a fait donc l'amitié de le diriger. Elle avait contribué à la conception du parcours de son côté. Et alors c'est un ouvrage qui, à mes yeux, présente un intérêt particulier parce que, justement, il accompagne cette aventure du français. C'est le titre du parcours de visite. C'est une aventure à côté de l'aventure du français. Il présente les différentes séquences du parcours, mais dans un ordre un peu différent. Et c'est aussi une manière de dire que le parcours, ça n'est pas quelque chose de définitif. On n'a pas essayé d'ailleurs de proposer aux visiteurs une doctrine, une thèse. On l'incite à construire son jugement. C'est un parcours parmi d'autres. Et c'est un peu le message du livre d'une langue. D'ailleurs, l'ouvrage s'intitule « Le livre d'une langue » et non pas « Le livre de la langue française ». Et ça n'est pas un hasard. Une langue parmi d'autres, une langue en dialogue avec d'autres, ce qui est aujourd'hui une des définitions de la francophonie.
Et l'importance des livres, bien entendu, et des écrivains et des écrivaines. Rappelons que Villers-Cotterêts est la ville natale d'Alexandre
Dumas,
bien entendu. Alors, il y a aussi un des points qui vous caractérise dans votre réflexion, c'est la manière de défendre concrètement la langue française. Vous dites que la meilleure manière de la préserver, c'est, y compris sur Internet d'ailleurs, vous dites, c'est de créer en français, d'inventer des notions en français, des actions même en fait.
Oui, et des notions qui n'existent nulle part ailleurs, et qui n'ont pas de nom ailleurs d'ailleurs, qui n'ont pas d'étiquette, puisque une notion en général, elle a une étiquette qui est un mot qui la désigne, si vous voulez.
C'est marrant que vous disiez étiquette prête à porter, par exemple.
Absolument. dans le parcours, il y a d'ailleurs un dispositif assez amusant, enfin qui amuse les visiteurs. C'est une centaine d'objets qui désignent des mots, enfin qui renvoient à des mots du français, qui se sont infiltrés dans des autres langues. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que de toutes les langues du monde, c'est au français qu'historiquement, les langues du monde ont le plus emprunté.
C'est vrai.
Restaurant, toilette, enfin, etc.
Y compris l'anglais, d'ailleurs, avec un titre provocateur du professeur Cerchilini, l'anglais.
Et massivement l'anglais.
Ouais, avec l'anglais.
On a eu des allers-retours.
Rendez-vous prêt à porter, laissez faire. Alors, il y a un exemple aussi que je trouve fameux, oui. C'est le général de Gaulle.
Oui.
Alors là, racontez-nous.
Le général de Gaulle, comme vous le savez, il préconisait un certain mode de relation entre les deux blocs. Il voulait avoir une voie autonome.
En pleine guerre froide. Union soviétique, États-Unis.
Les États-Unis. Et donc, il voulait désigner un mode de relation entre ces blocs qui ne soit pas un mode de relation d'antagonisme, de guerre, etc. C'est une question qui, aujourd'hui, a une certaine actualité, je dois dire. Et il s'est donc emparé d'un mot existant, détente. Et il a désigné ce mode de relation sous le nom de détente. Et on dit détente,
en
géopolitique dans toutes les langues.
Ouais.
Vous voyez ? Donc il a inventé cette notion. On peut prendre un autre exemple. Au sein de l'Union européenne, par exemple, les Français ont proposé un concept qui est celui d'acquis communautaire. D'acquis communautaire, c'est l'ensemble des textes, des règles, etc., sur lesquels les États membres de l'Union européenne se sont mis d'accord. Eh bien, on dit acquis communautaire dans les 23 autres langues de l'Union, parce qu'il n'y a pas de véritable équivalent.
De la même manière, start-up, si on avait inventé le concept avant, on aurait appelé ça jeune pousse dans le monde entier.
Absolument. Et c'est ce qu'on constate d'ailleurs quand on regarde l'ensemble des inventions qui nous viennent d'outre-Atlantique ou des innovations technologiques, voire des pratiques culturelles. Elles nous arrivent dans une langue qui n'est pas nécessairement la nôtre, de sorte que... On les emprunte, c'est avec une étiquette qui n'est pas la nôtre, hélas.
Et pour terminer, en quelques secondes, en fonction de nos humeurs, peut-être que nos mots préférés changent. En ce moment, vous, l'un de vos mots préférés dans la langue française, ce serait lequel ?
Écoutez, de chic, je dirais. Enfin, j'aime bien ce mot parce qu'il évoque pour moi des voyages. J'aime bien le mot caravelle. J'aime bien le mot caravelle avec son L final. C'est à la fois un navire historique, un très bel avion qui a disparu de nos ciels, mais voilà, qui nous fait encore rêver.
Eh bien, merci de nous avoir fait rêver. Merci Xavier Nord.
Merci à vous.
Bien entendu, on aura l'occasion de vous revoir d'ici le sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts en octobre. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Tout au long du mois de mars, en partenariat avec les rendez-vous de la francophonie, nos médias partenaires RFI TV 5 Monde, France 24, Popourri Show présente Spécial Francophonie 2025. Je vous invite à participer en grand nombre à nos jeux concours et à me suivre dans des escapades inédites avec des invités francophones engagés, passionnés, des DJ, des humoristes, des chroniqueurs, des jongleurs de mots, des écrivains, des auteurs, des jeunes slameurs du continent africain et des artistes Catherine Levac le 21 mars au Paradise Theatre et Le Vent du Nord le 27 mars au Paradise Theatre à Toronto. Une présentation de Francophonie en fête et Bonjour Printemps 2025.
Il y a longtemps, la terre n'était qu'un grand désert, rien n'y poussait, du chien dans de misère.
Il y a longtemps, la terre n'était qu'un grand désert, rien n'y poussait, du chien dans de misère.
Un seul point d'eau était garant de toute vie, un lieu gardé chez les Abénaquis.
Un seul point d'eau était garant de toute vie, un lieu gardé chez les Abénaquis.
Chantons la créature. Mit le feu dans l'arrière-pays, brûla récolte, maisons et fanneries.
Une étincelle mit le feu dans l'arrière-pays, brûla récolte, maisons et fanneries.
Pour nous sauver, on appela la bête illustre une sentinelle, tel un dragon lacustre.
Pour nous sauver, on appela la bête illustre une sentinelle, tel un dragon lacustre.
Chantons la créature. L'histoire du Tchaoussaro, le père de la rivière Richelieu, l'histoire de la vallée de feu. Longue gueule de l'animal préhistorique fendit la terre dans un geste héroïque.
La longue gueule de l'animal préhistorique fendit la terre dans un geste héroïque.
L'eau le suivait, noyant les flammes derrière lui du lac au fleuve, une rivière naquit.
L'eau le suivait, noyant les flammes derrière lui du lac au fleuve, une rivière naquit.
Chantons la créature. L'histoire du Tchaoussaro, le père de la rivière Richelieu, l'histoire de la vallée de feu, l'histoire de la vallée de feu.
Mesdames et messieurs, méfiez-vous des vagabonds, artistes, réfugiés et autres adeptes des révolutions. Ils volent votre terre natale, votre langue, votre horizon. Ils se moquent du capital et des lois de vos nations. Ils sautent par-dessus les méridiens, se rapprochent de vos maisons. Déjà vos mers ne charrient plus que des vagues d'immigration et vos chemins se remplissent de poètes en panne d'inspiration.
On dit souvent que mon art dérange quand je dis ce que je pense, et quand je pense ce que je dis, nuance, c'est étrange comme les temps changent. On dit souvent que mon art porte préjudice, on me plaide coupable d'utiliser mes mots à ma guise. Moi qui n'ai que les mots en guise d'armes, je les aiguise car c'est la justice que je vise. On dit souvent que mon art porte atteinte à l'autorité des institutions. Libre, j'abuse de ma liberté d'expression, à connotation, le slam est devenu synonyme de rébellion. On dit souvent que mon art ne sert à rien, que slammer ne sert à rien, c'est cela ce qu'ils disent, c'est monsieur, madame, je sais tout, qui savent tout, sauf rien. Allez leur dire qu'on est tous sauf rien.
Parce que s'il y a une chose que je sais, c'est que je ne sais rien, disait Socrate. Et Descartes, que la parole a beaucoup plus de force pour persuader que l'écriture, sachant toutefois que les écrits sur les paroles souvent perdurent. Alors pourquoi j'écris? Serait-ce par soif de liberté? Par mélancolie d'un lieu où je n'ai jamais mis les pieds, face à ma feuille, un peu de paix et de sérénité, alors je crée. Toujours en quête de raison, souvent de se le dire et de partir sans raison. Oui, j'ai soif de liberté, mélancolique, d'un lieu où je n'ai jamais mis les pieds, que l'humain n'a pas souillé, où la liberté des uns s'arrête encore là où commence celle des autres.
Car chez nous, les femmes n'ont pas le droit à l'éducation. Une femme est avant tout une mère, une épouse, celle qui se lève tôt le matin pour aller chercher de l'eau au puits, celle qui fait bouillir la marmite pour nourrir sa famille, celle qui apaise les cris, celle à qui on a appris à dire oui. Oui, car quand l'homme, quand le monde, la femme obéit, l'homme, lui, n'a jamais tort, mais parfois il oublie. Il oublie de les avouer. Fumanet paraz, anaïzeti, taïzen aratias, comme on dit chez nous, des us et des coutumes qui se sont perpétuées de génération en génération, de nos grands parents à nos parents et de nos parents à nous enfants. Mais il est temps que les femmes aussi aient droit à l'éducation, qu'on sache lire et écrire, parler et s'exprimer, découvrir et voyager. Il est temps que l'on cesse d'avoir peur. Il est temps que l'on ouvre nos cœurs. Il est temps. C'est maintenant, il est l'heure.
Allez, viens, approche-toi de l'équateur. Viens visiter mes tropiques aux mille couleurs, aux rivières de diamants et de douleurs. Bidonville, c'est ailleurs, c'est ici. Bidonville, les étudiants au fond des mines et au cimetière les mineurs, puisque la valeur de la pierre augmente à chaque fois qu'une vie se meurt. Enfants putains, alignés sur les trottoirs, enfants caïds, enfants voleurs, entassés dans les dortoirs. Pendant ce temps, chez les pêcheurs, on ne tire que des filets vides. On craint toujours le paludisme et on regarde sa petite sœur accoucher d'une cinquième fille. Alors, reste les siens à nourrir. Poissons envolés, fruits confisqués, moissons exportés, chiffres tronqués. Alors je pars pour elle, pour lui, puisque l'espoir n'a pas de prix. Alors, je prie.
Non, je ne prierai pas. Paris, Bruxelles, Abidjan, Bamako, Liban, Tchad, Tunisie, Cameroun, Niger, Canada, Égypte. Je pense à toi de tout cœur, je pleure, je te pleure, je nous pleure, mais non, je ne prierai pas. Je ne le ferai pas au sens propre du terme, je ne m'adresserai pas à quelconque divinité, je ne la supplierai pas de veiller sur toi, sur nous, sur eux. Non, je refuse de m'y adonner. Car il est clair, encore une fois, que l'humain aura su transformer ses droits et ses croyances en armes de destruction massive. Hélas, nous n'avons rien appris de l'histoire, semble-t-il. Dans cette promotion à outrance de la haine, cette course à l'homogénéité, cette culture populaire de la xénophobie, ce culte de l'individualisme, tous s'empressent de revendiquer leurs droits et croyances comme étant supérieurs à ceux de notre prochain. Mais qu'en est-il de nos devoirs, humains avant tout? En quoi ton droit équivaut à devoir tuer l'autre?
Oui, je suis celui qui tue pour une croyance ou une couleur de peau, le manifestant qui pleure sous les gaz lacrymaux, le corps de ce migrant qu'on repêche au fond de l'eau, l'innocent qui sanglote seul au fond de son cachot, et cet homme qui viole avec la pointe de son couteau. Je suis pédophile, bourreau, ce toxico qui ne vit que pour la prochaine dose. Je suis ce terroriste qui explose dans le métro, et ce politicien qui ne répand plus que la haine de l'autre, la balle perdue, l'erreur dans l'équation, la faute, l'artiste qui réinvente le monde à sa sauce. Je suis le président corrompu et le flic qui torture, le militant qu'on tue et le militaire qui exécute. Je suis l'hôpital qui s'écroule sous les bombes et cet homme qui marche seul sur les décombres. J'ai dénoncé mes amis, trahi mes compagnons, fait exciser ma fille au nom de la tradition, reporté mes vices et mes blessures sur la prochaine génération. J'ai tendu la main à ceux rester dans l'ombre. Je suis ce qu'il y a de meilleur et de pire, le bourreau, la victime. Mon âme se rappelle, je ne suis que ce choix que m'a offert le ciel. Mon âme se rappelle, je suis cet autre que je déteste. Je suis cet autre que j'aime. Mon âme a ses souvenirs qui lui donnent des racines et des ailes. Le ciel, la terre, l'ombre, la lumière, la paix, la guerre, une altercation de circonstances ont fait le yin et le yang, ce qui fait que l'un sans l'autre on ne peut exister, que d'un accord en désaccord, une alliance se trait, ralliée en un traité, signé en deux mots, fraternité, unité.
Nos humanités superposées, une fraternité fragilisée, deux doigts de la même main, une diversité liée par un même destin. La différence est le point de division, mais cette différence est aussi notre communion. L'enfant naît dans ce monde sans aucune crainte, rappelez-vous-en, aucun jugement et aucune peur. Ce n'est que la curiosité de la découverte dans les yeux, ce n'est que des boules d'amour dans le cœur, une haine étrange, une noirceur absurde. Mais de ma noirceur, je te couvre et de mon sourire, je t'effraie. Prends-moi, encore une fois, prends mon souffle, prends ma vie, prends-moi dans tes bras, peut-être juste une fois, peut-être juste une seule fois, mais prends-moi. Partons, au loin, loin d'ici, loin de nos douleurs, loin de nos couleurs, près de nos ferveurs et encore plus de nos cœurs.
La couleur n'existe pas. Que tu sois noir ou bien blanc, que tu aies la peau mate ou bien marron. Là où la différence n'existe pas, que tu sois riche ou bien pauvre, que tu sois esclave ou bien noble. Là où les barrières n'existent pas, là où on parle une seule et même langue, là où l'amour est un pont entre nous et les deux mondes. Allez viens, je t'emmène chez moi. Là où la haine n'existe pas, là où on forme tous une seule et même nation.
J'aime cette grande cuisine pour cuire mon ballonnet, mon bébé. J'ai pas besoin de grand chose, seulement de 30 musiciens. Viens goûter ma recette, celle du chef Boyardi. Je l'aime cette maison-là, laissez-moi. Je veux partager la même chambre que 6 autres filles. Je ramasserai mes bas après le lavage. J'en demande pas trop, je veux juste une pause de mes jumeaux d'amour. Oh,
sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines,
on dessine tout ce que l'on voudrait dire.
Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards.
Nos noms l'a écrit, car dans la nuit tout s'efface.
Écris sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs à force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève, un beau jour sur le monde endormi.
Mélangeons demain dans un refrain nos visages
métissages.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
Thank you.
de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines,
on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Le département d'études françaises de l'Université de Toronto est fier d'annoncer son tout premier gala d'excellence. Un événement visant à reconnaître les réalisations exceptionnelles des étudiants, du corps professoral et du personnel. Cette soirée de célébration se tiendra le vendredi 25 avril à Father Maiden Hall, St. Michael College, de 18h30 à 21h. Au programme, remise de prix, discours inspirants et opportunités de réseautage. Gala d'excellence du département d'études françaises, Université de Toronto. 25 avril 2025, au Father Maiden Hall, St. Michael College, 100 St. Joseph Street, à Toronto. Plus de détails sur popourishow.com. Premier gala d'excellence du département d'études françaises sur notre campus, Université de Toronto. Un événement qui met en lumière l'impact de l'éducation, de la recherche et de l'engagement communautaire et célèbre les contributions exceptionnelles de nos étudiants, enseignants et membres du personnel. Alors, soyez-y.
Bataille de la crête de Vimy, du 9 au 12 avril 1917. Malgré les décennies qui se sont écoulées depuis la bataille de la crête de Vimy, les efforts colossaux des Canadiens qui ont participé à cette importante bataille de la Première Guerre mondiale demeurent gravés à jamais dans la mémoire collective du pays. Certains disent même que le Canada est arrivé à maturité en ces difficiles jours d'avril 1917. Le dimanche 13 avril 2025, nous commémorons le 108e anniversaire de la bataille de Vimy. Le comité Vimy Toronto vous donne rendez-vous dimanche 13 avril à 10h55 au Cénotaphe de l'ancien hôtel de ville de Toronto. Le comité Vimy Toronto 2025, avec ses institutions et associations, a à cœur de continuer cette commémoration afin que vive le devoir de mémoire, l'éducation, la conscience morale et notre engagement citoyen dans la lutte pour la paix dans l'avenir. Les citoyens français, aux côtés de leurs amis canadiens, tiennent à exprimer leur reconnaissance et leur respect aux combattants canadiens qui ont combattu sur les terres de France et d'Europe pour défendre notre liberté. Nous comptons sur votre participation et votre coopération pour cette commémoration 2025. Rendez-vous donc dimanche 13 avril à 10h55 au Cénotaphe de l'ancien hôtel de ville de Toronto pour commémorer le 108e anniversaire de la bataille de Vimy. Pour plus d'infos, Monsieur Gérard Poupé-Hill, comité Vimy Toronto, joignable à 647-725-5236 ou visitez notre site web popourishow.com. Ne manquez pas notre édition spéciale, la bataille de la crête de Vimy, un lieu, une histoire, le dimanche 6 avril, sur CUT 89,5 FM, en partenariat avec le comité Vimy Toronto 2025. Bataille de la crête de Vimy, non plus jamais de guerre, non plus jamais.
Je m'appelle Gary Anna-Jean-Louis, je suis humoriste et comédienne, mais aussi porte-parole des rendez-vous de la francophonie 2025. Cette année, célébrons et cultivons nos racines francophones, peu importe d'où elles viennent et la manière dont elles s'entrecroisent. Québécoise, haïtienne et fièrement entremêlées, mes racines manguérables sont fortes et grandissent chaque jour. Du 1er au 31 mars, imprégnez-vous de ce désir de célébrer et joignez-vous à moi pour participer à toutes sortes d'activités et de concours dans votre ville et sur le rvf.ca. J'anticipe avec impatience la tournée d'humour pan-canadienne des rendez-vous de la francophonie dont je serai l'animatrice. Au plaisir de vous rencontrer d'un bout à l'autre du pays et préparez-vous dès maintenant pour la 27e édition des rendez-vous de la francophonie. Restez branchés, n'a point bientôt.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
De 11h à 13h, Popourri Show sur CUT 89,5 FM, Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence. Nous sommes en guerre. Les États-Unis nous attaquent. Ils ont annexé le Canada. Nous sommes en guerre. À quoi sert la francophonie ?
L'Europe est à un tournant critique de son histoire. Le bouclier américain se dérobe, l'Ukraine risque d'être abandonnée, la Russie renforcée. Washington est devenue la cour de Néron, un empereur incendiaire, des courtisans soumis et un bouffon sous kétamine chargé de l'épuration de la fonction publique. C'est un drame pour le monde libre, mais c'est d'abord un drame pour les États-Unis. Le message de Trump est que rien ne sert d'être son allié puisqu'il ne vous défendra pas, qu'il vous imposera plus de droits de douane qu'à ses ennemis et vous menacera de s'emparer de vos territoires tout en soutenant les dictatures qui vous envahissent. Mais dans l'histoire américaine, les partisans de la liberté l'ont toujours emporté. Ils commencent à relever la tête. Le sort de l'Ukraine se joue dans les tranchées, mais il dépend aussi de ceux qui, aux États-Unis, veulent défendre la démocratie et ici de notre capacité à unir les Européens, à trouver les moyens de leur défense commune et à refaire de l'Europe la puissance qu'elle fut un jour dans l'histoire et qu'elle hésite à redevenir. Nos parents ont vaincu le fascisme et le communisme au prix de tous les sacrifices. La tâche de notre génération est de vaincre les totalitarismes du XXIe siècle. Vive l'Ukraine libre, vive l'Europe démocratique.
La francophonie, c'est beaucoup plus qu'une langue universelle. C'est 1 milliard de personnes sur les 5 continents. 20% du commerce mondial, 84 États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie et plus du tiers des États membres de l'ONU. Une grande puissance médiatique dans plus de 200 pays. La deuxième langue seconde la plus apprise dans le monde. Plus de 800 établissements d'enseignement supérieur et de recherche et 900 000 professeurs de français. Bonne journée internationale de la francophonie le 20 mars avec Impératif Français.
Le ministère de la Culture présente la 30e édition de la Semaine de la langue française et de la francophonie sur le thème « Prenez la parole ». Du 15 au 23 mars, rendez-vous en France et dans le monde entier pour célébrer le français et découvrir les richesses de la francophonie.
En Amérique, on peut entendre les langues autochtones.
L'anglais, l'espagnol, le portugais,
le créole
et évidemment le français. Tout comme son continent, la francophonie des Amériques est belle, vaste et diversifiée.
Saviez-vous que partout au Canada, on peut étudier en français de la garderie à l'université?
On retrouve d'ailleurs plus de 20 universités francophones d'un océan à l'autre.
La culture francophone y est aussi célébrée dans de nombreuses fêtes et festivals,
même jusqu'à Saint-Pierre et Miquelon.
Au 19e siècle, les Canadiens français ont traversé la frontière du Sud en si grand nombre qu'on y retrouve aujourd'hui des millions de leurs descendants.
Il y a plusieurs villes majoritairement francophones en Nouvelle-Angleterre.
On redécouvre la valeur économique du français en Louisiane et on retrouve de nombreuses populations francophones à New York, en Floride et jusqu'en Californie.
D'est en ouest, le français résonne.
Dans les Caraïbes, c'est plus de 9 millions de personnes qui s'expriment en français. Les festivités culturelles sont nombreuses, soulignant à la fois leur héritage français et créole.
Plus au sud, en Amérique latine, savez-vous que le français est la 12e langue étrangère la plus étudiée? Son enseignement est obligatoire au Costa Rica, alors que c'est au Brésil qu'on retrouve le plus grand nombre de francophones.
Au-delà de l'éducation et de la culture, il y a des commerces, entrepreneurs, restaurateurs et industries qui offrent des services en français d'un bout à l'autre des Amériques.
Mais la francophonie des Amériques a encore des défis à relever.
Partout, la demande pour apprendre le français dépasse l'heure.
On manque d'écoles francophones, d'écoles d'immersion et aussi de professeurs.
Ensemble, communiquons,
vivons,
travaillons pour faire rayonner cette francophonie des Amériques.
Nous sommes Québécois, Acadiens,
Franco-Tico,
Guadeloupéens,
Franco-Ontariens,
Mexicains.
Nous sommes la francophonie.
Édition spéciale. Journée internationale de la francophonie sur CUT 89,5 FM. Et pour écouter nos émissions, que vous soyez dans le monde, popourishow.com. Et saviez-vous que quelques 33 millions de francophones et francophiles vivent dans les Amériques? Et oui, nous sommes 10,7 millions au Canada, 700 000 en Ontario, 350 000 et peut-être plus à Toronto, plus de 11 millions aux États-Unis, 9,7 millions dans l'espace Caraïbe, 2,8 millions en Amérique centrale et du Sud. Eh oui, la présence francophone dans les Amériques est une réalité historique et géographique.
En cette semaine de la langue française, Patrice Russe a questionné pour nous des écrivains et des artistes sur leur lien avec la langue de Molière. Aujourd'hui, rencontre avec une autrice, journaliste, lauréate du prix Albert Londres. Écoutez.
Bonne nuit, écrivaine et journaliste, journaliste et écrivaine au choix.
S'il y avait un mot qui, pour moi, pouvait résumer la francophonie, ça serait le mot « métissage ». Pourquoi ? Parce que pendant très longtemps, pendant la période de la colonisation, par exemple, le métissage, c'est ce qui faisait le plus peur à l'Empire français. Et tous ces mélanges, en fait, ils ont eu lieu. Et aujourd'hui, finalement, l'héritage de tout ça, c'est la francophonie. Et le français est devenu, ben, c'est ce que disait Kata Biasay, un but en guerre pour des populations qui avaient été colonisées, mais qui aujourd'hui, dont certes, les artistes et les écrivains ont contribué à faire rayonner cette langue française. J'ai envie de vous parler de Marguerite Duras, parce que justement, si on veut parler de métissage, Marguerite Duras est née a grandi dans l'Indochine coloniale, donc elle était bilingue. Et donc Marguerite Duras, en fait, a toujours eu ce souvenir de cette langue de l'enfance, le vietnamien. C'est-à-dire que quand elle écrit, par exemple, elle passe souvent du jeu au jeu. En vietnamien, il n'y a pas de jeu. On parle toujours de soi à la troisième personne. Et elle, effectivement, elle a ce jeu avec les pronoms personnels, je, j, e, u. Ce métissage qu'il y a dans son style, qu'il y a dans sa langue, ben, je trouve que c'est finalement une métaphore très belle de la francophonie. J'ai envie de vous raconter l'histoire d'une dame que j'ai rencontrée au Vietnam, qui s'appelle Léon Sam, et qui a grandi pendant la colonisation et qui a appris le français comme beaucoup de personnes de sa génération. Et qui, elle avait 16 ans en fait en 1945 quand a commencé la guerre d'Indochine. Et donc elle allait tout de suite dans le maquis. Et dans le maquis, elle racontait les misérables à ses compagnes de lutte dans le maquis, dans la jungle, parce qu'elle avait gardé toujours cet amour pour Victor Hugo. Ensuite, cette personne est devenue, après la fin de la guerre, elle est devenue traductrice, et elle a traduit Balzac, elle a traduit Proust, elle a traduit Stendhal. Bah, je crois qu'il n'y a pas une personne qui a plus fait rayonner la littérature française au Vietnam qu'elle. Et on ne se rend pas compte de tout ce qui se passe en fait ailleurs, et on ne se rend pas compte à quel point, pour nous, c'est une chance qu'un petit peu partout dans le monde, on continue à parler français, et que la littérature francophone, c'est ça qui fait rayonner notre langue française.
Bienvenue sur www.cut.fm, l'Université de Toronto. L'ingénieur du son DJ Devera, production et animation Eric Kader, avec vous jusqu'à 13h sur www.cut.fm. Et un immense merci à tous nos généreux partenaires et invités qui ont participé à notre émission spéciale du 16 mars dernier. Monsieur Taoufik Abayeb, fondateur du magazine Leaders, éditeur de Transculturalisme et Francophonie, dernier livre du professeur et poète Elie Bouraoui. Édouard Landry, auteur, compositeur, interprète franco-ontarien, qui a lancé En plein air en exclusivité sur CUTFM, premier extrait de son prochain album, Salon des Réfugiés. Dominique Lalande, agente de promotion des projets artistiques et littéraires, Québec-Canada-France, collaboratrice de CUTFM et la fondatrice de la Communication. Nafi Leili Faigou, artiste, dramaturge, poète, metteur en scène, institutrice de grammaire française à l'Université Brock, directrice du Salon du Livre des Francophonies du Niagara, Safran, du 20 au 23 mars à Marilyn Walker School of Fine Performing Arts à Sainte-Catherine, une initiative de Sophie Franc. Et pour écouter l'intégralité de toutes nos émissions, veuillez visiter notre site web popourishow.com.
Je suis la langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est parce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, pour créer la connivence entre auditeur et locuteur. Parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti, j'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite, libre, évolutif, la langue vie, révolte, danse. Et le livre des livres, livre des livres de pan. Je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est un rempart à la novlangue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
Merci d'écouter RFI. Il est 13h en temps universel, 9h à Washington et à Port-au-Prince.
RFI Midi.
Anne Contner.
Dernière partie d'RFI Midi avec Haïti à la une de cette demi-heure américaine et un symbole attaqué par les gangs. les bureaux de la radio-télévision Caraïbe incendiés. Notre correspondant a rencontré des employés du média. Reportage dans quelques minutes. Nous avons aussi la chance aujourd'hui de recevoir le cinéaste haïtien Samuel Suffren pour parler de la vie quotidienne en Haïti et de son travail, et notamment de ses films qui sont centrés sur l'exil et le départ. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises, comme chaque jour, Benoît Ferrand importait des matières premières caribéennes, les transformer sur place, puis les exporter. C'est le grand projet de la collectivité territoriale de la Martinique.
Avec une zone exclusivement consacrée à ce projet, pas très loin de Fort-de-France et de l'aéroport international. Interview du patron de la collectivité territoriale à suivre.
À tout à l'heure.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Où les gangs, en plus de multiplier les attaques contre les forces de l'ordre, contre les civils, s'en prennent aussi aux symboles et notamment à la presse. Hier, la coalition criminelle Vivre Ensemble a attaqué les locaux de l'un des plus grands médias du pays, les bureaux de la radio-télévision Caraïbe. Ils étaient vides, délaissés, justement à cause des violences, mais les gangs ont incendié les bureaux. Peterson Luxama.
Une fumée noire s'élève du bâtiment. Les locaux de la radio-télévision Caraïbe ont été partiellement incendiés par les gangs armés. Une attaque qui choque et attriste les employés de la station à l'image de Denel Saint-On.
C'est consternation totale.
C'est la consternation totale, avec beaucoup de frustration également. Car incendier les locaux de Radio Caraïbe, une station qui existe depuis 76 ans, c'est s'attaquer à un patrimoine. C'est toute une histoire qui est partie en fumée.
C'est toute une histoire qui est partie en fumée là.
Indignation aussi chez Guerrier Dieu Seul, présentateur et l'un des directeurs d'information de la radio depuis plusieurs années. Selon lui, c'est un grand symbole de la presse haïtienne qui est attaqué.
La direction générale de Radio-Télévision Caraïbe exprime sa profonde indignation et sa tristesse. RTVC demeure un pilier incontournable de la liberté d'expression et du droit à l'information en Haïti.
S'il est vrai que la direction de la radio avait abandonné le local, des équipements essentiels de la station se trouvaient encore dans cet espace. Malgré tout, les responsables n'entendent pas cesser leur mission d'information, assure Guerrier Dieu Seul.
Cet acte de violence ne fera que renforcer notre engagement à poursuivre notre mission malgré la menace et les défis.
L'incendie de la RTVC rappelle une fois de plus que la capitale est livrée aux gangs et personne n'est à l'abri de leurs exactions. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Et l'incendie de la radio-télévision Caraïbe fait aussi réagir la presse haïtienne que vous avez lue pour nous, Marine de la Moissonnière.
Oui, la presse locale qui partage la consternation qu'on vient d'entendre dans le reportage de Peterson Luxama, a commencé par le Nouvelliste dont les locaux ont été vandalisés par les gangs il y a presque un an. La presse continue d'encaisser les coups, déplore Franz Duval. À chaque fois qu'un média est attaqué, ce sont des souvenirs que nous perdons, c'est notre humanité que nous perdons, c'est notre histoire que nous perdons, se désole le rédacteur en chef du quotidien. Le Nouvelliste souligne que les médias ne sont pas les seules cibles. Toutes les institutions du pays, sans distinction aucune, sont attaquées, pillées, brûlées. N'importe qui peut perdre la vie au détour d'une rue ou d'une adresse qui hier encore était accueillante. C'est pour nous tous que nous devons nous inquiéter, insiste le journal.
Le Nouvelliste qui s'inquiète tout particulièrement de la situation à Port-au-Prince.
La capitale haïtienne continue de sombrer, peut-on lire dans le journal. Les gangs ont intensifié les attaques contre les rares quartiers qui échappaient jusque-là à leur contrôle. Plus les jours passent, plus les malfrats grignotent des territoires emportant vis et bien, explique le Nouvelliste qui liste toutes les cibles de ces derniers jours. Carrefour Feuille, Christ-Roi, Lalu, Bourdon, le quartier de Delmas 30, la faculté des sciences humaines a même décidé de fermer ses portes. Toutes les activités auront désormais lieu à distance. Les quartiers de la commune de Port-au-Prince qui n'ont pas encore été attaqués durant cette nouvelle vague de violence sont rares. Insiste le Nouvelliste, tous vivent sous la menace des gangs.
Et cette situation, les Haïtiens n'en peuvent plus. Le Nouvelliste nous apprend que des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Léogane hier pour demander aux autorités d'agir et notamment de donner aux policiers des moyens d'empêcher les gangs d'envahir la ville. On va continuer à parler d'Haïti puisque nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui dans notre studio le cinéaste Samuel Suffren. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur, vous êtes producteur, vous êtes aussi président de l'association KIT qui réunit des cinéastes et des photographes. Vous vivez, pas tout le temps, mais vous vivez encore en Haïti de temps en temps. Est-ce que vous avez subi les conséquences de ces violences dont on parlait à l'instant?
Je pense que tout le monde aujourd'hui fait face à cette violence-là, cette vague de violence. Moi, j'ai dû fuir mon appartement il n'y a pas longtemps de cela. Et parce que les gangs envahissaient un peu le quartier Debussy, Calin Pévert et tout. Moi, j'habitais un peu au Paco. Je me suis hébergé chez ma sœur Adelma. Donc du coup, on essaie de trouver comment vivre dans cette vague de violence. Mais on est tous on sait pas trop comment s'en sortir, mais on est tous dans cet espace là, ouais.
Vous travaillez beaucoup sur l'exil. Est-ce que c'est un sentiment qui habite vos proches qui sont en ce moment à Port-au-Prince et dans la zone métropolitaine?
Je pense que la question de rester et de partir, c'est une question évidente qui est là partout en fait aujourd'hui, avec la jeunesse, les artistes, etc. Donc on se demande comment vivre dans ce pays. Moi, je dirige un festival avec le collectif dont je fais partie, Kit. Ça fait 6 ans qu'on le fait, mais à chaque année, la thématique devient les mêmes thématiques, quoi, du genre comment vivre dans ce pays, on est zombifié ou exilé dans son pays. Donc du coup, on est face à ça et habiter, rester, partir, c'est une vraie question en fait.
Qu'est-ce qui vous avait poussé à travailler sur ce thème-là en premier lieu?
En premier lieu, il y a eu mon père, parce qu'en 1981, mon père, il avait fait le voyage pour aller aux États-Unis par bateau, avec le phénomène Boat People et tout. Et quand il m'a raconté cette histoire, son rêve, c'était d'aller aux États-Unis. Il me disait que personne ne devait mourir sans voir les gratte-ciel de New York, etc. Et là, un jour, il m'a annoncé qu'il allait chanter aux États-Unis avec son groupe. J'ai commencé à le filmer. Quand il est mort, il n'a pas pu aller aux États-Unis et je me suis accaparé de cette histoire-là parce que j'ai été à Port-de-Paix et j'ai vu mon père, il était 22 en bateau. Quand j'étais à Port-de-Paix en 2021, les gens étaient plus de 400 personnes en fait qui partaient. Là où mon père est parti en 81, en 2021, ça n'a pas changé, ça a même été pire quoi. Donc du coup, à ce moment-là, je me suis intéressé à parler de ça, mais vraiment en abordant la question du point de vue de ceux qui restent, pas ceux qui partent en fait.
Alors justement, c'est effectivement quelque chose que vous évoquez dans un de vos films, dont l'héroïne part, une femme part, elle laisse son mari et son enfant, elle leur laisse une cassette qu'ils écoutent, qu'ils réécoutent en boucle sur laquelle on entend sa voix. Qu'est-ce qui reste justement à ceux qui sont toujours en Haïti et qui voient leurs proches partir?
Tout ce qui reste, je pense, c'est l'espoir en fait, l'espoir de voir cette personne un jour, l'espoir que cette personne va revenir un jour. Va revenir aussi avec un peu d'argent, va gagner sa vie en étant à l'extérieur, mais aussi celle qui reste ou la personne qui est restée, elle souffre en fait. Parce que imagine que t'as un père, t'as une mère, t'as un amant, une amante qui monte un bateau. Comment on monte un bateau? Comment on fait cette traversée-là? Comment c'est-à-dire s'accrocher à la vie ou à la mort, je sais pas. C'est-à-dire que donc là, j'étais très intéressé à dire, celui qui attend, comment il attend? Comment on attend une personne après 15 ans dans l'incertitude? Donc voilà.
L'attente, elle peut durer très longtemps. C'est ce que vous filmez dans votre film Agoué, qui avait été sélectionné au Festival de Locarno, sacré meilleur film de la diaspora au FESPACO au Burkina.
Capitaine Philippe Dimbato, après aller dans le jour, là, il y a la préchasse, hein.
Ce film-là, il raconte l'exil d'un homme, cette fois, qui part en laissant sa femme enceinte de 6 mois. Et elle, des années et des années après, elle l'attend toujours. Elle n'arrive pas à passer à autre chose.
Ouais, c'est incroyable parce que la traversée, tu sais, beaucoup de gens sont morts, en fait, dans la traversée. Donc du coup, moi, mon père, il est resté 22 jours en mer sans boire. Il buvait que de l'eau de la mer, quoi. C'est-à-dire que c'était miraculeux. C'était un mort-vivant, en vrai. C'est-à-dire que comment on attend quelqu'un? Justement, je me suis accaparé de ça, mais de se dire, quoi, la mort peut être, comment accepter la mort de quelqu'un sans voir son corps? C'est quand même très compliqué. Donc, du coup, l'attente, c'est l'espoir. Tout ce qu'on a, même aujourd'hui en Haïti, tout ce qu'on a, c'est, même dans l'adversité, dans ce malheur, tout ce qu'on a, c'est l'espoir de dire qu'un jour, ça va changer. Un jour, la lumière va jaillir. Donc, tout ce qu'on a, en fait, c'est l'espoir.
Vous avez parlé tout à l'heure de zombification pour décrire le quotidien aujourd'hui en Haïti. Agoué, c'est le nom d'une divinité vaudou. Qu'est-ce qu'il représente?
En fait, et quand j'étais à Jacmel pour faire le film, Et le film ne s'appelait pas comme ça, en fait. C'est vraiment comme j'ai fait. Mes films a vraiment porté très documentaire parce que je retourne beaucoup avec les gens du village, avec dans les marchés publics, etc. Et là, les gens, on avait une scène avec des bateaux sur la mer, on envoyait du riz. Et là, ils disent, écoute, ça, c'est Agoué, en fait. C'est une cérémonie pour Agoué. Mais Agoué, c'est la divinité des océans, tu vois. Je me rappelle quand j'ai été aussi à Port-de-Paix, les gens disent, écoute, il faut que Agoué nous laisse passer. Il faut le passage de cette divinité-là qu'on fait la traversée. Donc, du coup, pour moi, c'était important. La symbolique est très importante de titrer le film Agoué parce que c'était la divinité des océans. C'était le Dieu qui laisse passer, le Dieu qui laisse passer l'espoir, le Dieu qui laisse passer l'ailleurs, quoi. C'est ça, en fait.
Avec beaucoup d'incertitudes, dans ce film, votre héroïne dit « La mer est la meilleure amie des frontières ouais. ». Qu'est-ce qu'elle représente, la mer, pour les Haïtiens? C'est un espoir ou un danger ou tout ça à la fois?
C'est-à-dire que la mer, c'est la traversée, en fait. Bon, on habite déjà une île. C'est-à-dire qu'on est entouré de la mer. Donc, en même temps, cette mer-là, c'est la mer qui nous égorge, en fait. C'est-à-dire que, après, les terres sont séparées par la mer. C'est-à-dire que, autant que c'est l'espoir pour nous, c'est cette mer-là qui met les frontières, en fait. C'est à partir de là qu'on arrive, quand les gens, avec les bateaux de 400 personnes, arrivent à Miami, sur les plages de Miami, et c'est là qu'ils se jettent, en fait. C'est à la mer qu'ils se jettent. Et pourquoi? Pour pouvoir vraiment se libérer, de dire, bon, on est arrivé sur le sol des Américains, on va vivre le rêve américain, qui souvent n'est pas un rêve, en fait.
Bah, surtout peut-être en ce moment, puisque la nouvelle administration Trump a fait savoir qu'elle avait des projets extrêmement durs contre toutes les personnes immigrées et en particulier contre les Haïtiens. Elle a promis des expulsions extrêmement nombreuses, la plus grande opération d'expulsion de l'histoire du pays. Est-ce que les États-Unis continuent quand même à faire rêver?
Je pense que oui, parce que il y a aussi le côté les gens qui sont partis, tu sais, quand les gens qui partent aux États-Unis, au Canada, enfin, je sais pas. C'est la honte de retourner chez soi, sans rien, sans gagner sa vie. Tu sais, à un moment, les gens se prenaient en photo devant leur frigo et envoyaient des photos en Haïti, etc. Tu vois, il y a les œufs, il y a du poulet, il y a... Donc, du coup, oui. Mais après, avec tout ce qui se passe aujourd'hui aussi, c'est un message. C'est-à-dire, on a le devoir de faire pays. Les Haïtiens ont le devoir de faire le pays.
Et quel rôle la culture, le cinéma peut jouer dans tout ça?
En fait, je pense que c'est essentiel. Nous, depuis, je sais pas, des temps, on n'a que ça. C'est-à-dire que c'est même pas une question de... Je parlais à une amie qui me disait, mais tu vois comment la subvention partout dans le monde, ils sont en train de couper la culture, etc. J'ai dit, mais nous, on n'a jamais eu de subvention. Nous, ça nous fait rien. Ça a été toujours viscéral. C'est-à-dire que pour nous, la culture, c'est la chose qui nous permet d'exister, de vivre, en fait. Et là, à Port-au-Prince, il y a plein de festivals. On est dans un pays en guerre. Là, en décembre, on a organisé notre festival avec le collectif. Pour le lancement, malheureusement, il y a eu des plis de balles. Deux personnes sont atteintes, en fait, pendant le lancement du festival. Mais on l'a pas arrêté. On voulait l'arrêter. Les gens ont dit, mais non, il faut continuer. Donc, on a fait un festival dans les camps des déplacés, dans des quartiers qui sont encore accessibles. Voilà, pour nous, c'est viscéral. On n'a pas d'autre choix, on n'a pas d'autre issue, en fait.
Merci beaucoup, Samuel Suffren, d'être venu dans nos studios pour parler donc de votre pays, d'Haïti, et de votre travail. Et ces festivals, ils existent donc notamment grâce à des associations comme la vôtre, KIT, qui réunit des cinéastes et des photographes. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
RFI, The World's Voices.
L'actualité du continent, ce sont aussi les États-Unis, et c'est à lire dans la presse du pays, Marine de la Moissonnière. Les journaux se font l'écho du revers que deux juges ont infligé à Donald Trump hier. Les licenciements d'employés d'agences fédérales ont été annulés.
Oui, comme le souligne le New York Times, ce sont des dizaines de milliers de fonctionnaires qui vont retrouver leur poste ou recevoir une indemnité de licenciement des employés qui étaient en période d'essai. Il faut savoir qu'aux États-Unis, tout fonctionnaire qui change de poste, même au sein de la même administration, est considéré comme comme étant en période d'essai pendant 1 ou 2 ans. Officiellement, ces fonctionnaires avaient été renvoyés à cause de leurs mauvais résultats. Mensonges, ont estimé les deux juges qui ont vu une manœuvre pour tenter de déguiser des licenciements collectifs destinés à réduire le poids de l'État tout en s'affranchissant des obligations légales.
Mais ces deux décisions ne signifient pas pour autant la fin des licenciements au sein des agences fédérales.
Oui, elles offrent un répit important mais temporaire à des milliers de personnes, explique le New York Times, car les deux juges ne se sont pas prononcés sur le fond du dossier. Et puis, comme l'a souligné l'un des deux magistrats, il peut tout à fait y avoir des réductions d'effectifs au sein d'une agence fédérale à condition de respecter les règles.
Tout cela n'empêche pas Donald Trump de continuer à tailler dans les défenses publiques et la nouvelle victime, c'est l'université Johns Hopkins.
Oui, cette prestigieuse université à la pointe de la recherche médicale a vu son budget amputé de 800 millions de dollars, rapporte le Washington Post. Conséquence, la suppression de 2000 emplois dans 44 pays et des inquiétudes pour l'avenir de cette université, car l'an dernier, la moitié de son financement était de l'argent public. Or, Donald Trump semble vouloir continuer à tailler dans les dépenses fédérales. De nombreux programmes de recherche vont devoir s'arrêter, comme par exemple des études sur le VIH. Plus ils couperont dans le budget, plus les gens mourront, se désole un chercheur dans les colonnes du journal. Et au-delà de ces coupes budgétaires pourraient également avoir un impact économique, comme le raconte le quotidien américain Johns Hopkins, qui est installé à Baltimore, est un acteur essentiel pour le Maryland. C'est l'un des principaux employeurs de cet État. 55 000 salariés, rien que dans le Maryland, 90 000 au total. Un impact économique de 15 milliards de dollars, résume le Washington Post.
Marine de la Moissonnière pour la revue de presse, à retrouver sur internet rfi.fr.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de La Première, on vous retrouve, Benoît Ferrand. Importer des matières premières caribéennes, les transformer sur place et les exporter, voilà le grand projet qui est porté par la collectivité territoriale de la Martinique.
La zone exclusivement consacrée à ce projet devrait être implantée à Ducos, pas très loin de Fort-de-France donc, et de l'aéroport international. Et pour ce qui est de l'exportation, 2 ports francs seraient créés. Écoutez le président de la collectivité territoriale de la Martinique, la CTM, Serge Letchimy, est au micro de Franck Zozor.
Nous avons négocié 2 ports francs, le port de Fort-de-France et le port du Robert. C'est en cours aujourd'hui. Les travaux vont commencer bientôt. Et nous avons demandé de qualifier ces zones-là en termes d'avantages fiscaux et sociaux. Et nous avons très clairement indiqué que les 70 hectares que nous visons sera la plus grande zone d'activité d'outre-mer. Et nous avons demandé à M. Val que nous souhaitons que Pays-Navi sache ce qu'on appelle un OIN, c'est-à-dire une opération d'intérêt national. Quand je dis national, c'est doublement national, c'est à la fois France, mais aussi local. Qu'on puisse avoir une convergence de production pour muter l'économie. Parce que c'est bien de condamner l'économie de comptoir, mais qui sont remettées derrière. Donc on propose un espace expérimental de transformation économique qui pourrait reconfigurer complètement l'orientation économique du pays. Vous avez déjà des tentatives autour de soja, maïs réexporté, ou quoi transformer, ou quoi réexporter. Le bois, les matières premières de base, les pierres précieuses, c'est véritablement une réorganisation de l'économie qui est prévue.
On passe à un secteur économique plus traditionnel aux Antilles, le tourisme, avec des indicateurs 2025 pour l'instant plutôt encourageants. Franck Aristide est de la Première Guadeloupe.
Plus 35% de recherche sur Abritel et Expedia pour la Guadeloupe, plus 25% pour la Martinique par rapport à l'an dernier. Nos destinations sont particulièrement ciblées par la clientèle touristique française pour les prochaines vacances de Pâques lorsqu'elle choisit de partir loin. Une explication, notamment selon l'étude des moteurs de recherche, nos destinations sont d'habitude en concurrence avec le sud des États-Unis, comme la Floride, voire également avec le Mexique. Sauf que la forte inflation sur le territoire américain, doublée de la nouvelle donne politique avec l'élection de Donald Trump, dissuade de plus en plus les touristes de choisir les USA. Ils pourraient alors se reporter sur les Antilles, qui ont donc une nouvelle carte à jouer. Pour autant, nos régions ne sont pas en tête du peloton des recherches. L'Asie, avec le Japon, la Thaïlande, les Philippines et enfin le Vietnam raflent la potentielle mise, notamment en raison du coût de la vie bien moins élevé.
Bon après-midi, bon week-end, Anne.
Eh oui, Popori Show et CUTFM remercient chaleureusement le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation, KEPKA, et le Mois du créole à Montréal pour les deux prix de reconnaissance dans le cadre de nos émissions spéciales Mois du créole édition 2022. Et oui, nous sommes extrêmement honorés de recevoir cette reconnaissance. Le KEPKA, un organisme à but non lucratif légalement constitué, qui a vu le jour à Montréal le 13 avril 1997, a pour mission de défendre et de mettre en valeur les langues et les cultures créoles par les arts, l'éducation populaire, le partage et la sensibilisation. Il contribue au rayonnement et à l'enrichissement des patrimoines culturels du Québec et du Canada par la diffusion des littératures créoles et africaines. Il aide les jeunes créolophones canadiens et québécois à découvrir leurs identités. Il crée le pont entre les créolophones du Québec, des Caraïbes, de l'océan Indien et des diasporas. Il développe des échanges entre les auteurs, les artistes, les chercheurs et les amis de la langue créole par l'organisation de multiples activités hautement culturelles et artistiques. Toute l'équipe de la radio dit haut et fort, merci en pile à KEPKA et le Mois du créole à Montréal. Pour tout savoir sur ces prix de reconnaissance, popourishow.com. Au mois d'octobre, vivez au rythme des cultures créoles du monde sur CUT 89,5 FM Toronto.
Vous écoutez? Vous allez apprendre quelque chose. Alors, c'est parti. On y va. L'Afrique francophone.
La République du Congo, Brazzaville. La Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, la Guinée, le Cameroun. Le Djibouti, le Rwanda, le Gabon, le Burundi. Le Madagascar, le Tchad, le Niger. La République démocratique du Congo, Kinshasa. La République centrafricaine, le Togo, le Bénin. Le Burkina Faso, la Guinée équatoriale. C'est l'Afrique qui parle français. C'est l'Afrique qui parle français.
Il y a 19 pays en Afrique qui ont le français comme langue officielle. Vous êtes en train de les apprendre. Continuez.
La République du Congo, Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, la Guinée, le Cameroun, le Djibouti, le Rwanda, le Gabon, le Burundi, le Madagascar, le Tchad, le Niger, la République démocratique du Congo, Kinshasa, la République centrafricaine, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale. C'est l'Afrique qui parle français. C'est l'Afrique qui parle français.
La République du Congo, Brazzaville. La Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, la Guinée, le Cameroun, le Djibouti, le Rwanda, le Gabon, le Burundi,
le Madagascar, le Tchad, le Niger, la République démocratique du Congo, Kinshasa, la République centrafricaine, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale. C'est l'Afrique qui parle français. C'est l'Afrique qui parle français. C'est l'Afrique francophone.
Dans la francophonie, une tapisserie de cultures,
différentes et belles, toutes sont louées.
De l'Afrique à l'Europe, aux plaines du Canada.
Le français nous unit en un refrain commun.
Par le pouvoir du langage, nous trouvons notre chemin.
Vers de nouveaux départs, vers des jours meilleurs.
Dans la francophonie, nous célébrons la diversité.
Nous honorons nos différences tout en adoptant la nouveauté.
Langue, immigration et culture s'entremêlent.
une splendide mosaïque qui continue de s'étendre.
Dans la francophonie, on trouve un foyer.
Un endroit auquel nous appartenons.
Peu importe où nous allons.
Bonne journée internationale de la francophonie.
Bonne semaine de la francophonie.
Bonne année de la francophonie.
Bonne journée internationale de la francophonie.
Bonne journée de la francophonie.
Bonne journée de la francophonie.
Il y a une époque pas si lointaine où on achetait nos disques compacts au magasin, mais de nos jours, écouter de la musique, ça se fait principalement sur les plateformes numériques comme Spotify, Apple ou encore YouTube. Et c'est difficile pour les artistes francophones de se tailler une place dans cet univers anglophone. C'est pourquoi la Société des auteurs et compositeurs du Québec lance aujourd'hui musique.ca, notez bien l'orthographe. Et c'est Corneille qui est le porte-parole de cette nouvelle plateforme. Bonsoir, merci d'être avec nous.
Bonsoir, vous allez bien?
Ben, ça va très bien. Vous-même, quel est l'objectif de ce projet-là? Comment ça a démarré?
En fait, c'est la SPAC. C'est un projet qui, à la base, a été initié par la SPAC et ils m'ont contacté pour me demander si je voulais bien être le porte-parole de ce projet-là. Et ça m'a parlé tout de suite parce que c'est depuis très longtemps la première solution pratique, réaliste, viable qu'on propose pour pallier au gros problème que nous avons en ce moment à Québec, qui est celui du manque de visibilité, je dirais même de l'invisibilité du contenu francophone en musique au Québec. Parce que les artistes québécois sont aujourd'hui noyés dans cet océan des Spotify et des Apple Music de ce monde, qui sont des plateformes d'écoute et de distribution, qui ont un tel monopole que venir s'imposer face à eux est une affaire impossible. Et donc, la solution qui a été trouvée, c'est de créer un quartier général où on galvaniserait les consommateurs québécois pour les amener vers cette plateforme-là, pour leur rendre le soutien de la chanson francophone d'ici plus facile. Parce que si tu vas sur Spotify, t'as beau vouloir soutenir les artistes québécois, l'algorithme va forcément te réorienter vers du contenu plus anglo-saxon, que ce soit des États-Unis, de l'Angleterre ou ailleurs. Donc c'est pour moi, depuis que je fais de la musique et depuis surtout l'avènement de ces grandes plateformes-là d'écoute, c'est la solution la plus viable, la plus réaliste que j'ai trouvée, qu'on propose pour aider la cause des artistes en musique francophone québécois.
Là, on voit des images de la plateforme. Justement, ça fonctionne comment? On voit des listes de lecture. On nous demande aussi à quel service on est abonné. Concrètement, si on veut suivre cette plateforme musique.ca, on fait comment?
C'est super simple. C'est très, très simple. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on va sur cette plateforme-là, c'est une plateforme qui propose un super bel avantail de listes de lecture. On peut en parler plus tard si on a du temps. Et mettons que votre truc, c'est le R&B francophone d'ici, puis que vous avez envie de découvrir du R&B francophone fait au Québec. Ben vous allez trouver votre liste de lecture. Vous cliquez là-dessus et ça vous emmène directement à votre plateforme d'écoute habituelle. Donc, si vous êtes avec Spotify, ça vous amène directement à votre Spotify pour lequel vous payez déjà.
Donc, le but, c'est pas justement de concurrencer ces géants-là du web comme Spotify, YouTube, là.
Non, on est très réaliste. D'autres téméraires ont essayé avant nous et ça n'a pas marché. À un moment donné, faut se battre avec les moyens qu'on a. Je pense que ça donne des résultats beaucoup plus probants. Et on a appris des erreurs des autres et ce dont on s'est rendu compte, c'est que personne ne peut compétitionner avec ces plateformes-là, surtout pas avec Spotify, qui ont une longueur d'avance qu'on ne peut pas rattraper malheureusement, jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau modèle qui sera pas le streaming en continu. Donc, on se positionne pas du tout comme un compétiteur à Spotify. Par contre, on agit comme un joueur qui va privilégier, puis qui a à cœur, puis qui a comme priorité d'être la vitrine pour tout ce qui est musique francophone et surtout d'ici pour un public qui est à la recherche de ce contenu-là.
Avoir sa chanson sur une liste de lecture sur ces plateformes-là pour un artiste comme vous, qu'est-ce que ça change concrètement?
Ah, c'est le nouveau nerf de la guerre. C'est même pas ce que ça change, c'est qu'on dirait que tout part de là aujourd'hui. Aujourd'hui, le nerf de la guerre pour tout producteur de musique ou responsable d'une maison de disques, ce qui est mon cas aujourd'hui, je porte une double casquette, c'est d'arriver à se positionner, avoir une position privilégiée sur ces listes, ces fameuses listes de lecture de ces plateformes-là. Ce sont des listes de lecture qui commencent à remplacer la radio, par exemple. C'est-à-dire que c'est un lieu de découvrabilité essentiel aujourd'hui, sinon primaire. C'est pour exister, que ce soit en cours de carrière ou en début de carrière, il faut que ta chanson puisse être visible sur ces plateformes-là. Et la meilleure entrée de visibilité, ce sont ces plateformes-là.
Ouais, on dit qu'en 2023, il y a à peine 5% des chansons sur ces plateformes-là qui ont été écoutées au Québec qui étaient des chansons francophones. Dans le contexte actuel, vous l'avez dit, là, il n'y a pas seulement des artistes québécois qui seront là-dessus, des artistes de la francophonie aussi. Dans le contexte actuel où on se questionne beaucoup avec notre relation avec les États-Unis, pensez-vous qu'il y a une belle occasion à saisir justement pour le milieu culturel?
Absolument, absolument, parce que je sens autour de moi, je sens avec des gens comme vous, des médias, à chaque fois que je parle de cette initiative, je sens une écoute, au pire, au mieux, un vrai engouement. Et je pense que c'est dû au contexte actuel, au contexte économique, politique, où on est, je pense qu'il y a une partie de ça qui a commencé pendant la pandémie, cette espèce de conscientisation, de conscience, sur l'importance de consommer local, mais je pense qu'aujourd'hui ça cimente encore plus avec ce qui se passe, et j'espère que c'est un argument de plus pour nous, pour que les gens qui veulent consommer local écoutent local aussi.
Un beau message, on va se laisser là-dessus. Un plaisir de vous avoir reçu à l'émission, Corneille. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
Merci à vous, merci pour l'invitation.
Écoutez la planète chanter.
Quelques chansons, les feuilles mortes me rappellent à ton souvenir.
Ábreme una cosa, ábreme una cosa, dingue da,
dingue da.
Écoutez la planète chanter.
France 24, 4 chaînes d'information continue, 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com. Et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Ciné Franco, 25 ans et ça se fête. Et tout au long de l'année, en ligne ou en salle, restez branchés sur CUT 89,5 FM pour découvrir les rendez-vous et les films de Ciné Franco, reflétant la diversité des cultures francophones. Cinéfranco.com, popourichaud.com, 25 ans, ça se fête. Eh oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que Sophie France Solidarité des Femmes et Familles Interconnectées Francophones du Niagara, un organisme communautaire à but non lucratif, planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara. Sophie France est aussi un festival annuel haut en couleur avec Festive Ben, un salon du livre, des ateliers, des projets ambitieux et novateurs. Sophie France, 15 ans déjà, ça se fête! De la culture, de l'art et du patrimoine pour, par et avec les immigrants et les jeunes francophones du Niagara et de Welland. Découvrez les projets de Sophie Franc en cliquant sur sophiefranc.org ou visitez notre site web popourichaud.com. Où que vous soyez, si vous songez un jour vous installer dans la région du Niagara, Sophie Franc vous accompagnera dans votre processus d'intégration en vous offrant des services ciblés dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Pour une intégration réussie, une seule adresse, sophiefranc.org. Sophie Franc, un organisme qui a déjà fait ses preuves. Ensemble, faisons le changement. Pau Pourri Chaud, 35 ans déjà, fier partenaire de Sophie Franc. Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires, avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Pau Pourri Chaud et priseparole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer des pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourichaud.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur prisedeparole.ca. Point de neuf, les cafés du Créfaux. Eh oui, nos amis du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le Créfaux, ont le plaisir de vous présenter la cinquième saison. Quoi de neuf, les cafés du Créfaux. Avec la soif d'apprendre, un membre du Créfaux s'assied avec universitaires, artistes ou étudiants pour aborder des enjeux de société de petite ou de grande taille. Cette cinquième saison est animée par Amal Madibo, professeure agrégée et directrice adjointe du département de justice sociale en éducation à l'Institut d'études pédagogiques en éducation de l'Université de Toronto. Ses recherches se penchent sur les études noires, la francophonie, l'immigration et la race et l'antiracisme en Afrique. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf, les cafés du Créfaux. Et c'est gratuit. Plus d'infos sur oisi.utoronto.ca/fr/Créfaux ou tout simplement popourichaud.com.
Le Niger quitte l'Organisation internationale de la francophonie. Le pays avait été suspendu de l'OIF quelques mois après le coup d'État contre le président Bazoum en juillet 2023. L'OIF qui a annoncé hier soir que le Burkina Faso avait pris une décision similaire. Pierre Fersion, ses départs marquent la fin d'une époque.
Car l'organisation perd là l'un de ses membres fondateurs, le Niger. L'OIF a vu le jour le 20 mars 1970 à Niamey sous l'impulsion du président nigérien de l'époque, Amani Diori, l'un des pères fondateurs de la francophonie institutionnelle. Mais en décembre 2023, première rupture, le pays est suspendu de l'organisation suite au coup d'État du mois de juillet. 15 mois plus tard, le Niger annonce donc son retrait, un départ donc très symbolique que l'OIF juge regrettable. Auria van de Veghe est la porte-parole de l'organisation.
C'est jamais une bonne nouvelle d'apprendre qu'un État souhaite quitter. Après, nous, en tant qu'institution, on respecte les décisions souveraines des États. Bien entendu, on regrette l'impact que ça pourrait avoir sur les projets en cours. La volonté de la secrétaire générale, ce sera de solliciter l'avis des États pour voir dans quelle mesure l'OIF peut rester engagé auprès des populations de ces pays-là. On a des projets en cours. Le retrait du pays, du Niger, des instances de la francophonie, est-ce que ça doit nécessairement pénaliser les populations auxquelles nous sommes attachés. L'organisation de la francophonie, elle tient à cœur les communautés francophones, y compris dans les pays non membres. Donc il n'y a pas de raison que ça cesse pour le Niger.
Le Burkina Faso a également annoncé à l'OIF son retrait de l'organisation, même si pour l'heure, les autorités burkinabées n'ont pas communiqué à ce sujet. Le pays était lui aussi suspendu des instances de la francophonie suite au coup d'État de janvier 2022. Le retrait de ces deux pays ne sera effectif que dans 6 mois. Le Mali, le troisième pays de l'AES, suivra-t-il le mouvement? L'OIF assure n'avoir pour l'instant reçu aucune notification en ce sens.
Et oui, nous sommes arrivés à la fin de notre voyage intercontinental. Quel mois de la francophonie! Merci mille fois, merci du fond du cœur à tous nos invités, tous nos amis, partenaires d'ici et d'ailleurs, à tous ces jeunes sur les trois campus de l'Université de Toronto. On se revoit très bientôt. Et merci à tous nos amis de tous les médias partenaires en Afrique, à l'île Maurice, Eh oui, même aux États-Unis, hein, ils sont nombreux à nous écouter chaque semaine. Mille merci. Et retrouvez justement tous les bons plans de nos amis et partenaires sur popourrichaud.com. Allez, tout au long de la semaine. Le département d'études françaises de l'Université de Toronto. Le comité Vimy 2025. Les activités de Sophie France. Les prochaines conférences du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO. Et toutes les nouveautés littéraires. Les éditions Prise de Parole. Merci à DJ Devera, tous les techniciens de Hot House et nos médias partenaires RFI, France 24, TV5 Monde. Loin des yeux, près du cœur, je vous retrouve dans quelques semaines ou quelques mois à Toronto pour de belles surprises. Allez, je vous laisse avec le maestro. Ciao, ciao, ciao.
We wrote a song about the dream of Samuel de Champlain. Ajoutez les points d'hier à une carte. Sur une flèche remontée jusqu'à son arc. Traquer ses bâtiments pour une parque. Et des pots, quelques arpents pour son monarque. Et des pots, quelques arpents pour son monarque. Et au milieu des histoires des espagnols. Il nous reste à faire ce pays. Il nous reste à faire ce pays.